Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 27 de la saison 4. Vous commencez à bien me connaître pour la plupart d'entre vous, et vous savez que je suis curieuse. J'ai une soif de découverte insatiable. Je suis friande des spécificités des cultures qui ne sont pas les miennes, et cela particulièrement dans le cadre de coming out ou de construction de familles homoparentales dans des cadres plus stricts, plus traditionnels, dans des conventions moins ouvertes. Lorsque Sylvie est venue vers moi pour me raconter sa famille, nous nous sommes toutes les deux accordées sur le fait qu'il fallait avant tout qu'elle me fasse part du contexte dans lequel elle avait grandi et qui teintait l'ensemble des décisions de ce projet. Sylvie est d'origine chinoise. Ses parents sont nés au Laos et ont fui la montée communiste dès qu'ils ont pu pour se rendre en France et donner naissance à Sylvie, puis à ses frères et sœurs. Ses parents sont l'exacte interprétation de ce que l'on imagine des familles chinoises. Un père très taiseux, une mère plutôt effacée, dont le rôle est de s'occuper des enfants. Une famille à l'ancienne, très patriarcale en somme. Je me suis longtemps interrogée sur la possibilité de faire son coming out dans des sociétés si traditionnelles et ancestrales. J'avais déjà la conviction que cela demandait une grande force, tout en ayant conscience que cette force est malheureusement encore nécessaire en Occident aussi. Vous l'entendrez d'ailleurs dans cet épisode, c'est un sujet très sensible chez Sylvie. En revanche, ce que j'ai envie d'en retenir, c'est qu'elle a réussi. Elle a réussi à s'outer et à construire sa famille homoparentale en y ajoutant la complexité d'une différence d'âge certaine avec sa femme, tout en préservant les liens familiaux. Aujourd'hui, elle en a fait du chemin, et quand elle regarde en arrière, Sylvie peut être fière d'elle, fière d'avoir fait bouger les lignes. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Pour entériner son parcours et qu'il donne foi à d'autres jeunes Chinois qui aimeraient faire leur coming out et construire une famille, mais aussi pour que son fils découvre dans ses albums un héros qui lui ressemble, elle a écrit un livre pour enfants qui raconte leur histoire.
La conception de Léo avec la PMA.
J'ajoute juste ici que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de nous retrouver sur ma page Steady. Vous en trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast. Je ne vous retiens pas plus longtemps et vous laisse découvrir l'histoire de Sylvie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sylvie.
Bonjour Constance.
Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour notre enregistrement et je te remercie de me l'avoir proposé parce que je suis toujours intriguée et surtout très friande de connaître et de comprendre comment l'homosexualité est vécue dans les autres cultures. Donc je précise parce qu'on ne te voit pas que tu es chinoise, d'origine chinoise ou peut-être de nationalité chinoise, ça je ne sais pas précisément.
Je suis française d'origine chinoise. Okay. Deuxième génération de têtu en France.
D'accord, ok. Et que, du coup, en fait, ça a impacté forcément ta,
ta projection en tant que parent. Et donc aujourd'hui, on est là pour que tu nous expliques réellement comment, dans la culture chinoise, tu as pu vivre cette homosexualité. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter ?
Donc, je suis Sylvie Li, française d'origine chinoise, deuxième génération de TTU en France, informaticienne, autrice des livres bilingues et de livres inclusifs, avec un héros ultra-asiatique qui a deux mamans, et également maman d'un enfant conçu avec la PMA en Belgique.
Ok. Effectivement, il faut préciser, donc tu veux préciser l'intitulé de ton livre, comme ça on en reparlera, enfin de ton livre, de ton album pour enfants.
Oui, j'ai publié La conception de Léo avec la PMA, qui est un livre inclusif qui explique la PMA aux enfants avec de belles illustrations et des mots accessibles à partir de 4 ans.
À partir de 4 ans. Et donc, le premier album illustré dont le héros a des traits asiatiques. Et c'est quand même hyper important dans la visibilisation, parce que là, tu as un double enjeu. Tu as la visibilisation du fait que ce héros a deux mamans et la visibilisation du fait que ce héros est d'origine asiatique et a deux mamans.
C'est ça. En fait, on peut pas faire, entre guillemets, plus intersectionnel que ça. Ouais. C'est un livre qui souhaite lutter de manière préventive contre le racisme et contre la haine anti-LGBT.
Ouais, donc l'homophobie, ouais, carrément.
C'est ça.
On va commencer, donc c'est un épisode un peu particulier parce qu'on va traiter de ton accès à la parentalité, mais après avoir traité de peut-être la découverte de ton homosexualité et de comment tu as visibiliser cette homosexualité, comment tu as fait tes coming out, parce que évidemment on en fait plusieurs auprès de ta famille. Déjà, quand est-ce que tu t'es rendu compte, quand est-ce que tu as compris que tu étais homosexuel?
J'ai compris quand ma première copine s'est intéressée à moi et qu'elle m'a proposé de sortir avec elle. Sachant qu'auparavant, quand j'étais en primaire, j'étais amoureuse d'un garçon. Et qu'au collège, j'ai également été amoureuse d'un autre garçon, mais c'était des amours sans réciprocité.
D'accord, ok.
Et c'était... Ça veut dire que je n'étais jamais sortie avec eux.
Oui.
Donc dans ma tête, je m'étais sentie hétérosexuelle, comme ma fratrie, mon grand frère, ma petite sœur et mes deux parents, et je ne m'étais jamais posé la question d'avoir des sentiments amoureux pour une fille. Et ça m'est tombé un peu par hasard quand une fille du lycée m'avait invitée pour une soirée à Noël chez elle avec ses frères. Et donc, le lendemain, elle avait chatté avec moi sur MSN, à l'époque, le chat MSN. Et elle m'avait, c'est comme ça qu'elle m'avait demandé de sortir avec elle. Voilà. Et contrairement à son attente, contrairement à ce qu'elle pensait, elle pensait que j'allais la rejeter, tout ça. Et en fait, non, je me suis dit, j'ai eu des sentiments également qui sont nés de cette soirée et des échanges auparavant. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Et je ne me suis pas posé la question de « mais Sylvie, t'es lesbienne, c'est pas bien ». Non, j'ai accueilli ces sentiments amoureux et c'était la première fois que je tombais amoureuse d'une fille et j'ai voulu essayer. Je me suis pas directement mise des bâtons, je me suis pas directement interdite de vivre cette relation-là. Alors même que j'ai grandi dans une famille traditionnelle avec des parents qui avaient énormément de mal à parler de leurs émotions, des parents qui n'avaient pas la capacité d'avoir des gestes affectifs pour leurs propres enfants. En fait, à 8 ans, j'avais demandé à ma mère, « est-ce que papa nous aime ?» Et ma mère a trouvé cette question très bizarre, mais je lui ai dit, il nous montre jamais de gestes, il est toujours très dur avec nous, c'est le premier à nous punir. Et donc ma mère m'a dit, mais en fait, il ne vous le montre jamais devant vous, mais il montre qu'il est fier de vous, de ses enfants, quand il est avec ses amis. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très incompréhensible que mon père montre son amour devant ses amis, l'amour de envers ses propres enfants, et pas à nous directement.
Bah oui, bien sûr. Surtout donc, enfant, t'es pas en capacité de comprendre que la fierté, c'est aussi, la fierté d'un parent, c'est une démonstration de l'amour, quoi.
Mais oui, et moi j'avais besoin en fait de gestes affectifs de la part de mes parents et pas juste des punitions. Donc pour mes parents, c'était très difficile pour eux. Ils sont très pudiques à la base, et donc le sujet de l'amour, le sujet de la sexualité, c'était des sujets tabous.
Ouais. Jamais évoqué, je suppose.
Jamais évoqué. Et en plus, il nous avait interdit de regarder des scènes de films ou des scènes de séries avec des gens qui s'embrassaient.
Ouais.
On devait zapper quand il y avait ces scènes. Donc au début, cela nous faisait rire, mais surtout pas mes parents. Et pour mes parents, c'était notre vie était toute tracée, c'était très linéaire. D'abord, il fallait faire de bonnes études. Et ensuite, trouver un emploi, et ensuite, trouver un mari ou une femme. Et c'était impensable pour mes parents que leurs enfants aient une relation amoureuse pendant la scolarité.
Ah oui, c'était très, très rigide, très strict.
C'était très rigide, et en plus, pour eux, c'était le modèle qu'ils avaient vécu. Et donc, ma mère a découvert mon homosexualité et qu'en plus, elle a vu que mes notes baissaient, elle m'a directement montré l'exemple, elle a directement expliqué, tu vois, tu as des mauvaises notes parce que tu as ta relation avec ta copine. Et donc, pour moi, c'était très dur de vivre ça. En fait, j'avais fait classe prépa, et classe prépa, tes notes sont divisées par deux.
Bien sûr.
Tu passes de 18 sur 20 à des 6 sur 20, 8 sur 20. Et comme j'étais la première à faire classe prépa, pour ma mère, c'était incompréhensible. Et donc, elle cherchait directement l'excuse de « t'as ta relation, c'est pour ça que tes notes chutent. » Et elle comprenait pas que ma relation amoureuse était une bouée de sauvetage pour nourrir mon besoin affectif, et que ma belle famille qui m'avait acceptée, était vraiment là pour m'aider, et voilà.
Et alors du coup, attends, parce qu'on a été du coup un peu vite en besogne, mais en même temps, je comprends, c'était important qu'on cale, le contexte.
Le cadre,
exactement.
D'une famille très puritaine.
Ouais. Voilà. Mais parce que c'est pas facile, ça n'a pas dû être facile pour toi, du coup, tu dis j'ai accepté et j'ai accueilli ces sentiments amoureux très facilement, alors que tu vivais dans un cadre extrêmement rigide et que je me doute que tu devais penser peut-être décevoir tes parents. Comment tu peux accueillir ça si simplement ?
Je pense que c'était parce que j'avais un besoin affectif qui n'était pas satisfait.
Pas comblé, d'accord.
Comblé. Je pense sincèrement que c'est comme ça que je me suis dit, enfin on m'aime.
Ouais, je comprends. Je comprends complètement.
C'est passer du noir et blanc. Avoir des parents qui, n'aiment que quand on a des bonnes notes. C'est le sentiment que j'ai eu.
Oui.
C'est ce que j'ai vécu. J'avais vraiment l'impression que c'était un amour conditionnel de la part de mes parents. Et là, il y a une personne qui m'aimait, non pas pour ce que je faisais, mais pour moi.
Pour ce que tu étais.
Pour ce que j'étais. Et ça a été une grande différence. Et donc, je me suis dit, enfin, on peut m'aimer pour ce que je suis et non pas pour ce que je performe, c'est-à-dire être un bon élève, etc. Et donc, je m'explique le fait d'avoir accepté aussi facilement mon lesbianisme parce que j'avais un besoin affectif qui n'était pas comblé par mes propres parents.
Et oui, et ça s'entend, mais je me doute que ensuite, une fois que votre relation a pris forme avec ta copine de l'époque, tu me dis ta mère a découvert ton homosexualité, je suppose que tu t'as dû forcément te dire qu'à un moment donné, il faudrait en parler.
Tout à fait. Ma mère, d'abord, la relation avec ma première copine, elle était restée secrète, sous la forme d'une amitié déguisée. Mmh. Et la première personne à qui je l'ai annoncé, donc la première personne à qui j'ai fait mon coming out, c'était ma sœur, ma petite sœur, parce que j'étais proche d'elle. Mmh. Et je ne voulais pas lui faire de cachotterie. Et en fait, quand je lui ai annoncé, elle a directement pleuré. Elle a pleuré alors que je lui annonçais pour moi une bonne nouvelle. Et en fait, elle était triste, probablement de savoir que j'allais avoir une vie très compliquée, avec le regard des autres et surtout l'acceptation de mes parents. L'acceptation ou la non-acceptation de mes parents. Mmh. Et ensuite, je l'ai annoncé à mon grand frère. Et sa réponse a été blessante. Parce que la première chose qu'il a dite, c'était « je n'aimerais pas avoir un enfant homosexuel ». Ça m'a fait très mal sur le coup. Je me suis dit « oh bah tiens, premier acte homophobe au sein de ma propre famille, mais je ne voulais pas me mentir à moi-même ».
Oui.
Voilà. Donc j'ai voulu, ensuite, comment ma mère l'a su. Et ma mère se doutait qu'il y avait quelque chose entre ma première copine et moi, puisqu'on se fréquentait davantage et qu'elle venait dormir à la maison ou que j'allais dormir chez elle. Et à un moment donné, eh bien, quand j'étais en train de faire quelque chose, il y avait mon PC qui était ouvert avec une photo de ma copine et moi en train de s'embrasser. Et quand ma mère l'a su, eh bien, elle m'a directement demandé de revenir sur le droit chemin. C'était très difficile. C'était une oppression. Pour elle, c'était une perdre la face dans la communauté chinoise. Il y a le fait de perdre la face. C'est un principe qui est très fort. Et donc là, c'était perdre la face avec une fille qui n'est pas normale. Voilà. Pour elle, il y a une expression chinoise qui dit sortir des rails. Et donc, c'est la traduction littérale. Enfin, l'équivalent, c'est retourner sur le droit chemin pour les Français. Et donc, avec ma mère, vivre l'homophobie, la lesbophobie de sa propre mère, ça a été très dur. Et donc j'ai vécu ça pendant plusieurs années et j'ai très mal vécu ça. Mmh. Et donc c'était régulièrement, ma mère me disait « Sylvie, je t'interdis de faire ça, tu dois revenir sur le droit chemin ». Et pour me libérer de ça, je lui ai posé un ultimatum. Je lui ai dit « bah écoute maman, c'est soit tu continues et donc je me suicide, soit tu arrêtes ». Et tu acceptes ma relation parce que je ne peux pas me changer. Et donc, à partir de cet ultimatum, ma mère a arrêté, mais elle n'a pas forcément accepté. Elle a simplement arrêté de m'en parler. Mmh. Donc, ça a été très dur pendant très longtemps. Et voilà.
Ouais, non, mais surtout quand tu vois, c'était ton quotidien, tu vivais dans ta maison, enfin, dans cette maison où tu avais cette oppression permanente. Ouais,
c'est ça.
Je me doute que ça devait être.
C'était des malentendus, c'était des sous-entendus, c'était des gestes, c'était beaucoup d'oppression silencieuse. Mmh. Et en fait, ma mère, ce dont elle avait surtout peur, c'était que mon père me renie.
Oui, parce qu'effectivement, ton père, qu'est-ce qu'il en est ?
Mon père, finalement, en fait, plus tard, eh bien, ma mère m'a raconté qu'elle s'est bourrée la gueule pour l'annoncer à mon père. Et quand elle l'a annoncé, mon père l'a pris comme une lettre à la poste.
D'accord.
Et vraiment, ça a été un soulagement. C'était... Waouh, un poids que je portais, un fardeau que je portais depuis des années, 4-5 ans, qui s'est volatilisé. Mmh. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est normal que mon père ait accepté, parce que dans son entourage, il avait deux amis proches qui étaient homosexuels.
D'accord.
Donc, pour mon père, savoir que sa fille bien-aimée était homosexuelle, bah, c'était pas une si grande surprise. Et donc, j'ai trouvé ça très cocasse, finalement, de la part de cette scène, quand ma mère m'a dit « mais je me suis bourré la gueule et ton père, il a pris comme si c'était une du déjà vu », ça m'a fait vraiment sourire. Voilà.
Oui. Bah, c'était inattendu quelque part, mais en tout cas de ta part et de la sienne, parce que je suppose que dans votre culture, le père a presque une toute puissance, en fait.
C'est ça.
C'était un peu comme ça chez nous il n'y a pas si longtemps que ça, hein, finalement.
C'est une famille très patriarcale. Quand on dit traditionnel, c'est très patriarcal, avec le père, figure paternelle, qui a énormément d'autorité, et la mère qui est censée s'occuper des enfants et qui est censée être plus douce.
Mmh. Ouais. Voilà. Donc en fait, finalement, elle a tenté de te... Je lui trouve pas d'excuse, hein, soyons clairs, mais elle a tenté de te faire revenir dans le droit chemin, entre guillemets, pour te protéger de du courroux de ton père, en fait.
C'est comme ça qu'elle l'interprète, mais c'est comme ça qu'elle voit les choses. Mais je pense également que c'était probablement parce que dans son modèle de vie de famille, eh bien, il y a des enfants qui font ensuite des enfants. Et donc, sans me le dire, c'était pour elle le fait de savoir qu'elle ne pouvait pas devenir grand-mère avec moi. Mmh. Et ça, c'était un deuil qu'elle a dû faire pendant des années. Parce que à l'époque, la PMA, c'était pas connu. Et donc, pour ma mère et même pour la mère de ma première copine, régulièrement, elle nous disait « Mais vous voulez pas essayer avec un homme parce que finalement, vous allez jamais avoir d'enfant, etc. » Et en fait, c'était le premier problème pour eux, c'était pour elle, c'était de ne pas procréer.
Oui, oui, oui. C'est souvent la première réflexion qui est faite, c'est « Mais tu n'auras pas d'enfant. » Alors, oui. Enfin non, en fait, je suis lesbienne, je ne suis pas stérile.
C'est ça.
Alors après, voilà. Mais c'est vrai que c'est très souvent un sujet, très sensible.
Tout à fait. C'était un gros sujet, sensible, tabou. Et voilà.
Si je calcule bien, en fait, tu me disais que tu étais la deuxième génération en France. Tes parents sont nés en Chine, c'est ça ?
Mes parents sont nés au Laos. Mon père est né au Vietnam, ma mère est née au Laos. Les deux ont grandi au Laos. Laos étant un pays enclavé entre le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande.
D'accord, ok.
Et ils sont venus en France pour fuir l'invasion des communistes au Laos. Ils sont venus clandestinement en France pour recommencer leur vie à zéro et donc espérer un avenir meilleur. Et voilà.
D'accord. C'est important, je pense, aussi de poser ce cadre-là. Ok. Et alors, bon, tu poses un ultimatum à ta mère.
Oui.
Comment, tu sens que la pilule n'est pas complètement passée, mais enfin, ton père est finalement informé. Et tu sais, tu t'arrives à te souvenir de combien de temps après tout ça il est informé, si ça a été plus ou moins rapide?
C'était 5 ans. C'était quand j'avais 22 ans.
Ah ouais.
Ma première relation, elle avait commencé à 17 ans. Quand j'avais 17 ans. Donc, ma première relation a été vraiment compliquée. Ma première copine en a beaucoup souffert. Et donc, en fait, quand nous avons rompu et que au moins mon père l'a su, etc., eh bien, je pouvais enfin libre davantage vivre mon lesbianisme, je me sentais beaucoup plus légère et ça a été un soulagement. Je me suis dit, heureusement, j'ai des parents finalement quand même ouverts d'esprit. Et c'est ça qui m'a permis d'être mieux dans ma peau et de mieux vivre ma deuxième relation et enfin ma dernière relation.
Et est-ce que ton père est venu te parler suite à au coming out que ta mère a fait? Non.
Non, mon père est un homme très taiseux. Il ne parle pas, il parle très peu. Il ne m'a pas directement parlé. À chaque fois, quand je discute avec mon père, je dois engager la conversation. Mais sinon, en fait, c'est quelqu'un qui ne cherche pas les problèmes. C'est quelqu'un qui reste dans sa bulle. Non. Je me suis dit, au moins ma mère a fait l'effort de le lui annoncer. Mmh. Je voulais le lui annoncer, en fait. Et ma mère dit, non, je m'en occupe. Donc, je l'ai laissé faire. Mais mon père n'est pas venu vers moi. Mais quand j'ai vécu ma troisième relation donc avec S, ça s'est fait naturellement. Et donc, nous nous sommes rencontrés, nous avons commencé notre relation en octobre 2016, sachant que nous nous sommes fréquentés avant avec des meet-up. Quand j'ai annoncé à mon père, à mes parents, je vous présente ma copine, mes parents étaient surpris parce qu'elle était beaucoup plus âgée que moi, mm-hmm. Mais ils l'ont accepté. Il y a quand même 19 ans d'écart entre S et moi, mm-hmm. Donc c'était plutôt la différence d'âge qu'il devait accepter.
Oui, pas... c'était une autre...
Voilà, et pas le fait qu'on s'aimait. Et donc, ça s'est très bien passé. C'est comme si mes parents avaient pris l'habitude. Ouais. Et voilà. Et donc,
t'aurais pas imaginé ça il y a juste 3-4 ans en arrière, quoi.
Pas du tout. Mais au moins, on a pu vivre librement. Pour le coup, quand on dit oui, deux lesbiennes qui sortent ensemble, on ménage très vite ensemble, ça a été le cas. Même pas un mois après le début de notre relation, je suis partie vivre chez S. Elle avait fait de la place et voilà. Et ensuite, on a vécu notre histoire d'amour et peu de temps après, je suis devenue tata. Mmh. Mon grand frère et sa copine ont donné naissance à un petit garçon. Pendant très longtemps, je m'étais interdite d'être maman en tant que lesbienne, probablement à cause de cette image, ce modèle hétéronormé que j'avais en tête, que mmh. j'avais intériorisé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai porté mon neveu dans les bras et que j'ai vu mon grand frère et sa copine éprouver énormément de bonheur en prenant soin d'un petit être dans leurs bras, malgré la grosse fatigue, malgré les cernes qu'ils avaient, je me suis dit, moi aussi j'ai envie de vivre ça. C'est la première fois que je me suis autorisée à me projeter. C'était la première fois.
Ouais, ça devait être une grande étape parce que clairement, je suppose qu'en plus, tu t'étais peut-être même pas forcément renseignée sur cet accès possible à la parentalité dans la mesure où tu étais. Enfin, tu vois, t'étais un peu bridée. Je sais pas si on peut dire ça, mais t'avais l'esprit bridé, tu vois. Enfin,
déjà pour moi, c'était un combat dans ma tête de faire accepter mon lesbianisme au sein de ma famille. Mm-hmm. Tant que ça, c'était pas validé, c'était même pas possible dans ma tête d'envisager de fonder ma propre famille.
Bah oui, évidemment.
Et d'ailleurs. Ce que je voulais dire, c'est que quand on est lesbienne, en fait, on n'a pas de pression sociale de la part de notre entourage pour fonder notre famille. C'est pas du tout la même chose. Ma sœur, ma belle-sœur, elles ont eu la pression de ma mère, de leur propre mère, pour concevoir un enfant. Mmh. Et moi finalement je me suis dit c'est pas plus mal que je n'ai pas eu à vivre ça, je n'avais pas de pression sociale et donc j'ai décidé et voilà.
Oui clairement, après des fois tu sais juste le fait que tu te maries donc que tu rentres dans une certaine norme ça quand même, ils disaient attends après le mariage c'est le bébé quand même.
Mais oui, mais c'est ça, c'est que ma petite sœur quand elle s'est mariée Bah, très rapidement, ma mère a dit, bah, c'est pour quand le bébé? Et moi, je trouvais ça très intrusif comme question. Et donc, je me suis dit, bah, finalement, c'était pas plus mal d'être lesbienne parce qu'on n'avait pas à supporter cette pression-là.
Oui, complètement. Complètement. Et quand tu as présenté ta donc, S à tes parents, donc S qui est ta compagne actuelle, c'était la première fois que tu présentais une copine à tes parents?
Non, la deuxième, officiellement la deuxième, c'est très bien passé. D'ailleurs, c'était une copine belge qui parlait néerlandais et français. Et donc, mes parents l'ont accepté et il n'y avait pas de souci. Mais c'était une histoire qui n'a pas duré longtemps. Mmh. Et voilà, donc la présentation de S à mes parents, ça s'est passé normalement. Il n'y a pas eu de soucis particuliers.
Non, mais quand tu vois d'où tu viens, le chemin que tu as dû faire, c'est bluffant.
Enfin, c'était normal.
Oui, c'était acquis.
C'est ça. Voilà.
C'était acquis. Et alors, ce petit bébé qui arrive, qui te fait prendre conscience de ton envie, de ton désir de parentalité, je suppose que tu en as parlé relativement rapidement à S.
Oui. Donc, nous sommes sortis ensemble en octobre 2016. Mmh. Et l'idée du bébé a germé pendant nos vacances en Espagne en octobre 2017.
Donc, un an après.
C'est-à-dire même pas un an. Mmh. Et donc, en fait, S m'a dit, bah, Sylvie, tu sais, si tu envisages un enfant, tu as déjà 31 ans, faut pas traîner. Parce qu'elle, elle sait que faut pas traîner parce que la fertilité chute. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, bah, c'est vrai. Même si dans ma tête, je me suis dit, ah, bah, j'ai encore tout le temps. J'ai que 30 ans, 31 ans, voilà. Et en fait, grâce à elle, eh bien, nous nous sommes très rapidement mises en mode projet. Et donc, j'ai contacté des hôpitaux belges. J'avais vu le documentaire d'Émilie Jouvet, Aria. Mm-hmm. Et c'est grâce à ce documentaire-là que j'ai pu comprendre le parcours clandestin de PMA en Belgique. Et ça m'a donné des billes et ça m'a permis de faire assez rapidement. Et donc, entre le moment où on avait ce projet bébé et les premiers rendez-vous avec les hôpitaux belges, bah, il s'est coulé juste 2 mois.
Oui, ça peut aller vite, hein, franchement. Ça dépend des hôpitaux, bien sûr, mais il y a certains hôpitaux qui vont vite. Mais revenons-en juste un tout petit peu avant à S. Elle avait envisagé, parce que tu me disais, vous avez 19 ans d'écart, donc elle avait 49 ans à ce moment. Elle avait envisagé, elle, de son côté, la parentalité avant ou pas du tout?
Elle avait envisagé, elle était enceinte et elle a dû avorter.
Okay.
Avec son compagnon de l'époque, mais elle avait compris que c'était pas le bon moment, la bonne personne. Donc, ce parcours de parentalité, elle a vécu pendant quelques mois.
D'accord.
Donc, ensuite, est-ce qu'elle a regretté? Oui, l'avortement, tout ça. Mmh. Et donc, en fait, c'était une deuxième chance.
Oui, clairement.
D'envisager un projet de parentalité avec moi, alors qu'elle était déjà ménopausée. C'était comme un miracle.
Ah, bien sûr, évidemment. Enfin, je suppose que tu vois ça comme... c'est inattendu, quoi.
Tout à fait.
Et donc, du coup, tu me dis la Belgique. Donc, vous avez fait... Pourquoi... vous habitez où, si c'est pas indiscret? Enfin, vers où?
Nous étions à Beuzon, dans le 94.
D'accord, ok.
Non, dans le 95. Donc, nous étions à Beuzon dans le 95. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi la Belgique? C'est la proximité géographique.
Bien sûr.
Parce que dans notre tête, il y avait soit la Belgique, soit l'Espagne. Mmh. Et donc, naturellement, on s'est penché vers la Belgique. Et ensuite, pourquoi est-ce que j'ai envisagé directement des hôpitaux en Flandre occidentale? C'est parce qu'à l'époque, j'avais vécu à Courtrai, en Flandre occidentale. Mmh. J'avais appris un peu le néerlandais. Et donc, je savais que les Flamands parlaient un bon français. Mmh. Et donc, je me suis dit, quand j'avais contacté les hôpitaux de Gand et de Bruges, j'avais remarqué qu'ils proposaient des rendez-vous au bout de 2 mois, mmh. alors que pour les hôpitaux de Bruxelles, mmh. Pour certains hôpitaux, il fallait envoyer une lettre de motivation mmh. et que le délai d'attente minimum, c'était 5-6 mois.
Oui, ouais, complètement. Effectivement, n'importe quoi. Effectivement, Bruxelles est vraiment saturée. Déjà à mon époque, on avait attendu plus de 9 mois pour avoir un courrier qui nous fixait un rendez-vous 2 mois après encore. Enfin, bon.
C'est ça.
Et
en fait, je me suis dit, c'est pas grave si c'est des documents écrits en néerlandais. Ils parlent bien. Et donc, ça s'est confirmé quand je les ai appelés au téléphone. Et les échanges. C'était en français, néerlandais, ou même en anglais, et ça s'est très bien passé. Okay. La langue n'a jamais été un problème là-bas.
Et donc, vous avez fait le choix. Oui, en fait, c'est ça qui est assez fou en Belgique, c'est que finalement, déjà, ils s'adaptent énormément. Donc, ils ont tendance à parler, eux, plus facilement français qu'à nous faire parler, nous, une autre langue s'il y a besoin. Et du coup, vous aviez choisi, je ne sais pas si tu as précisé, vous avez choisi Gand, hein, c'est ça ?
Nous avons passé donc les entretiens de motivation avec gynécologue et psychologue à Bruges et à Gand, parce qu'on ne savait pas, on a préféré faire les deux, et ensuite, au feeling, décider après. Mmh. Et nous avons été très bien accueillis dans les deux hôpitaux, et nous avons préféré Bruges, pour sa taille humaine. Gand, c'est très grand et c'est tout un labyrinthe c'est un grand CHU. Et donc, on trouvait que ça faisait un peu usine. Et Bruges, c'était juste un bâtiment mmh. avec tout condensé et une petite équipe de PMA. Et donc, on a été très bien accueillis, très à l'écoute. Enfin, l'équipe était très à l'écoute. Très bienveillante et nous n'avions jamais eu le sentiment d'être jugés. Nous n'avons pas eu de questions indiscrètes. Mm-hmm. La psychologue nous a demandé nos motivations, a sondé notre motivation pour devenir homoparent, en nous expliquant quand même les enjeux de l'homoparentalité, etc. Dans une démarche bienveillante, et c'est ça qui nous a vraiment plu.
Oui, voilà. C'est sûr que là, le soutien, enfin, tu sens le soutien en fait à ce moment-là de ton projet, et c'est hyper rassurant.
C'est ça, et c'est la différence d'âge. Au début, ouais. On s'est posé la question, est-ce que ça allait être un frein? Eh bien, non. En fait, donc, parce qu'il y avait une grande différence d'âge, il était naturel que je porte l'enfant. Mmh. Et donc, non, ils ont dit, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Si vous vous aimez et que vous avez un projet à deux, il y a une commission qui doit valider, mais a priori, votre dossier ne pose pas de problème.
Oui.
Voilà.
Ils ont une tolérance qui est bien plus élevée que la nôtre.
Tout à
quand
fait.
Tu vois que encore dans des sécos, on entend parler de discrimination, ne serait-ce que de grossophobie, enfin, tu vois.
Tout à fait.
Ouais, non, c'est assez. C'est pour ça que je pense que certains, en tout cas, j'espère de moins en moins, parce que c'est pas le projet de base, mais certains continueront à partir à l'étranger.
Tout à fait. Et notamment les personnes racisées pour qui les délais d'attente pour des dons d'ovocytes ou de gamètes sont très très longs.
Oui, complètement. Complètement. C'est justement ce qu'on évoquait hors micro. Et justement, du coup, vous avez fait un choix spécifique par rapport aux donneurs. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que du coup, donc toi, tu es d'origine asiatique.
Enfin, je suis typée asiatique, oui. Chinoise, donc cheveux noirs, yeux. J'ai un phénotype d'une personne d'origine asiatique, d'origine chinoise. Mm-hmm. Et ma femme, elle est métisse française vietnamienne. Mm-hmm. Et donc la psychologue de l'hôpital de Bruges nous a demandé nos phénotypes pour concevoir un bébé qui ressemble à nous deux. Mm-hmm. Et notre enfant, quand on le regarde aujourd'hui, eh bien on voit qu'il est métisse. Donc, nous pensons que le donneur est caucasien.
D'accord, ok. Vous vous rendez vraiment compte qu'il est plutôt métisse donc
il est 100% métisse. D'accord. Il a des traits asiatiques et il n'a pas les cheveux noirs. Il a les cheveux châtains foncés. Mm-hmm. Donc, on pense vraiment que c'est un caucasien qui a un phénotype qui ressemble à celui de S.
Oui, parce que du coup, vous n'avez pas trop eu le choix. Enfin, finalement, vous avez donné juste votre phénotype et c'est eux qui ont fait le choix du donneur.
Tout à fait. C'était la condition de Bruges, c'est donneur anonyme avec principe de l'appariement pour que l'enfant ressemble aux parents.
D'accord, ok. Ils t'ont fait état d'un possible manque de gamètes de personnes d'origine asiatique ou pas ?
En tant que patiente étrangère, ils nous avaient expliqué simplement qu'ils achetaient les paillettes directement auprès d'une banque danoise. Mmh. Donc, ils ne nous ont pas dit qu'il y avait une pénurie ou pas.
D'accord, oui. Si ça se trouve, il n'y en avait pas, parce que peut-être que les banques rémunérant les dons, ils n'ont pas ce problème, ces problématiques-là. Ça, c'est possible aussi. Et du coup, oui, c'est vrai que c'est en grandissant que vous découvrez finalement les traits qui vous sont moins communs, on va dire.
C'est ça.
Entre guillemets.
Mais ce qui est surprenant, c'est que mon enfant et mes neveux ont un air de famille.
Ah, c'est drôle ça.
Ben oui, parce que
c'est normal en même temps.
Mon frère et ma sœur, nous avons tous des copains, copines caucasiens, et donc d'origine française, et mon neveu et enfin neveu et nièce et mon fils, ils ont la même couleur de cheveux quasiment. Voilà, donc trois, quatre petits métis.
C'est rigolo, ça doit être trop mignon. Et alors parce que. Ok, vous avez un parcours de... Toi, tu te lances de ton côté, enfin, vous lancez, je veux dire, je parlais de ta famille hein, quand je disais, je mettais, voilà. Vous lancez dans ce parcours. Est-ce que tu en informes ta famille de suite ou pas ?
Le projet était resté secret dans nos deux familles et nous ne l'avons révélé qu'après la première échographie où l'on entendait le cœur du bébé battre.
D'accord, donc sur l'échographie de datation.
C'est ça, parce que la première insémination a été un échec. Mmh. J'ai mal vécu et j'ai dû surmonter cet échec et ensuite me donner un mois de non-insémination, puis ensuite retenter. Mmh. Et ensuite, quand nous avons su, très rapidement, je l'ai annoncé à ma mère. Et c'est retranscrit dans l'album « La conception de Léo avec la PMA ». J'ai invité ma mère avec S et on le lui a annoncé avec l'échographie sur mon smartphone. Mm-hmm. Et ma mère, elle était tombée des nues. Elle ne comprenait pas. Elle se disait, mais non, c'est pas possible. Mais qui est le père ? Mais comment vous avez fait ? Etc. Et donc, en fait, c'était tout mignon et elle a vraiment bugué. Elle a posé des questions sur comment il va vivre quand même sans figure paternelle en tant que femme de la précédente génération. Mm-hmm. Mais j'ai ressenti quand même de la joie et de l'interrogation, de la surprise de la part de ma mère. Et ensuite, très rapidement, nous l'avons annoncé à toute la famille. C'était même pas à 3 mois de grossesse, hein. Mais au moins, on avait envie de l'annoncer au plus vite. Et les deux familles étaient enchantées. Heureuse d'accueillir un nouveau membre au sein de la grande famille. Ouais. Et ça a été un vrai bonheur à partager.
C'est fou, hein, c'est ce qu'on se disait en micro, comme les enfants réconcilient, apaisent, aplanissent les
ça.
Difficultés dans les familles. Hein.
C'est ça.
Même les plus traditionnels.
C'est que, en fait, mon homosexualité a été très mal acceptée par ma mère. Elle a bien fait preuve d'homophobie, mais mon homoparentalité a été très facilement acceptée. Et c'est comme si c'était une lettre à la poste, c'était comme si j'étais revenue sur le droit chemin, voilà.
Et aujourd'hui, comment ça se passe entre ta mère, donc entre la grand-mère de ton fils et enfin, de votre fils, et enfin, dans les deux sens, et ton fils vis-à-vis de sa grand-mère, comment ça se passe leur relation ?
Il s'apprécie, je ne l'ai pas annoncé, mais à la naissance de mon fils, je lui parle en chinois mandarin, qui n'est pas ma langue maternelle, mais je voulais vraiment lui transmettre cet héritage culturel important. Et donc, mes parents sont très, très heureux de pouvoir parler en chinois mandarin dans leur langue de cœur à leur petit-fils. Et ils sont gaga, ils sont très, très heureux de partager des moments avec eux, avec notre enfant. Et donc, je me suis réconciliée finalement avec ma mère. Je me suis rapprochée d'elle. Et ça fait du bien. Et mon enfant adore passer du temps avec papy et mamie. Et nous, ça nous fait du bien, finalement, d'être à nouveau une famille normale.
Oui, je me doute. Et papy dans tout ça, du coup, parce que papy, il a dû faire un gros chemin encore. Pour...
Bah, papy, eh bien, il est heureux d'être, d'avoir quatre petits-enfants. L'homosexualité de sa fille et de sa belle-fille n'est même pas un sujet. Mmh. Ils savent très bien que notre enfant a deux mamans. De temps en temps, ils posent la question, mais comment ça va être accepté à l'école, etc. Mais pour l'instant, nous sommes bien présentes au sein de l'école en tant que déléguées de parents d'élèves, etc. Et nous faisons tout pour que ça marche bien. Mmh. Donc, ils profitent de ces bons moments de complicité. Et moi, ce que je trouve ça incroyable, c'est que mon père dit des blagues en chinois à mon enfant. Il ne les comprend pas encore, mais je trouve ça superbe que mon père tisse une relation, développe une relation tendre oui. avec ses petits-enfants. Il s'est bonifié avec l'âge et ça, ça fait du bien.
Bah oui, tu m'étonnes. Et c'est vrai que, en fait, les grands-parents, ils n'ont plus d'enjeux, tu vois. Il n'y a plus d'enjeu d'éducation, il n'y a plus d'enjeu de représentation, il n'y a plus aucun enjeu. Finalement, ils ont que le beau rôle, entre guillemets, de jouer et de profiter. Donc c'est à ça. Ce moment-là, je pense que, tu vois, ça change tout, quoi.
Tout à fait. Et donc, il y a cette pression d'éducation qui saute. Mmh. Et donc, ils peuvent passer du bon temps. Et donc, ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs, ma mère régulièrement ou mon père régulièrement demande des nouvelles de notre enfant, et surtout pendant la Covid où chacun était confiné, eh bien je faisais une visio avec mes parents tous les jours pour montrer notre enfant, pour que ils vivent moins difficilement cette période de confinement, et ça a permis de mettre un peu de joie, voilà.
Et est-ce que tu sais si tes parents abordent, alors tu l'as dit, hein, ils sont pudiques et je pense que ça fait partie de votre culture, abordent ta structure familiale ou même ne serait-ce que ta sexualité avec leurs amis ou c'est pas, ils n'en parlent pas ?
Ils en parlent uniquement quand on leur pose la question.
D'accord.
Mais moi, par exemple, à la naissance de mon enfant, j'ai décidé d'envoyer un faire-part de naissance à tous mes oncles et mes tantes de Chine, mmh. Wow. pour m'affirmer en disant voici mon enfant, on a grandi la famille, et donc c'était un message fort de je suis lesbienne et je l'assume, et je suis même maman, et voilà. Et donc en fait, même si ils l'ont pris peut-être avec surprise, etc., moi, dans ma tête, c'était important que je m'affirme en tant que homoparent auprès de la famille du côté de ma mère. Et finalement, maintenant, ce n'est plus un sujet. Et ma mère, qui est très proche de sa petite sœur à Hong Kong, eh bien, elle fait des visios de temps en temps avec mon enfant et sa sœur. Et ça se passe très bien. Donc, ma tante demande des nouvelles de la famille, mmh. et réciproquement. Donc, en fait, ce n'est plus un sujet.
Ouais, donc ça, c'est hyper touchant de voir que, en fait, le plus dur c'était tes parents, mais dès lors que tes parents ont accepté, en fait, au final, ben, ils laissaient plus le choix à la famille d'accepter, quelque part, je veux dire. Et c'est marrant que, enfin, c'est marrant, je sais pas si marrant c'est le bon mot, tu vois, mais c'est assez fou de penser que des personnes qui vivent encore, alors Hong Kong c'est quand même, j'ai l'impression, parce que je connais pas bien, mais relativement moderne, mais, dans des pays qui sont encore peut-être plus rétrogrades et un peu plus anciens dans la mentalité, ben ça passe quand même.
Ça passe, quand on leur explique que bah, on s'aime et c'est naturel. Et voilà. Donc, au début, il y a toujours un effet de surprise. Mes parents avaient surtout peur d'un effet de rejet. Mais en fait, quand on gratte, je me rends compte que mes parents, au sein de leurs amis, ils sont quelques-uns à avoir souffert de leur homosexualité. Mmh. Mais ça fait son petit bout de chemin et voilà.
Mais c'est ça, tu fais bouger les lignes, clairement tu fais bouger les lignes, alors, enfin tu les amènes en tout cas à la réflexion.
Tout à fait.
Et si ça se trouve, tu vas permettre que pour d'autres, peut-être des enfants de tes amis, la pilule passe un peu mieux.
Bah justement, en fait, quand j'ai décidé d'écrire la conception de Léo avec la PMA, qui raconte ma propre histoire, où je parle également de tout ce cheminement avec une partie d'homophobie dans la deuxième partie, beaucoup de copains d'origine asiatique ne connaissaient même pas cette aventure. Et ouais. Donc, ils m'ont dit, mais merci Sylvie de nous montrer la complexité, le parcours du combattant que vous, lesbiennes, vous devez surmonter, en plus c'est à l'étranger, etc. Mm. Donc, ils ont salué mon travail de visibilisation de nos parcours clandestins parce que c'est pas anodin. Et voilà. Donc, mm. Ça fait du bien. Et là, en ce moment, par rapport à mon projet, j'ai eu beaucoup de retours positifs au sein de mon entourage, mais également au sein de la communauté asiatique qui m'ont dit « Waouh, les difficultés que rencontre la communauté LGBT, eh ben, c'est des difficultés similaires pour les communautés asiatiques en France. Les difficultés sont « Nous sommes invisibilisés, nous sommes victimes de discrimination, donc c'est important de s'entraider. » C'est les deux motifs, les deux motivations qui ont poussé l'Association des jeunes chinois de France à soutenir mon projet de livre jeunesse inclusif, alors même qu'il est vraiment axé homoparentalité.
Bien sûr.
Donc, voilà.
En fait, c'est pour ça que tu parlais aussi d'intersectionnalité, c'est qu'en fait, on se retrouve tous derrière les mêmes problématiques et les mêmes luttes au final. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on se soutienne.
C'est ça, tout à fait.
Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Sylvie, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu vas être porteuse d'un vent d'espoir. Je pense que si des personnes d'origine chinoise ou chinoise qui vivent dans des familles hyper traditionnelles et sont dans un cadre où ils ont peur de révéler leur homosexualité, où ils n'envisagent pas peut-être de pouvoir fonder une famille ou même ne serait-ce que de vivre en couple avec une personne de même sexe, je pense que là, tu vas insuffler clairement un espoir fou parce que ça, finalement, ça passe.
Ça libère. Ça libère la parole. Ça nous permet de nous rendre légitimes. Et ça nous permet de dire, si ça a marché pour elle, je peux essayer moi-même. Et sincèrement, j'ai déjà eu ce genre de retour suite à la publication du livre. Et j'ai même des copines là, lesbiennes d'origine chinoise qui se lancent à leur tour en se disant, les blocages psychologiques sautent. Ouais. Parce qu'elle l'a fait, je peux essayer de le faire.
Mais c'est ça en fait. Une fois que tu as quelqu'un qui a tracé la voie, ça ouvre énormément de possibilités. Donc, je dis pas que c'est hyper simple. Je dis pas que ça va être, que ça va se passer sans heurts. Mais toujours est-il que ça existe.
Mais c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que, enfin, tu sais, quand j'ai écrit ce livre-là, je m'attendais à avoir potentiellement des remarques homophobes ou des remarques racistes. Je l'ai écrit dans la postface du livre.
Ouais.
C'est mon inquiétude, mais je me suis dit c'est quand même plus important d'écrire ce livre-là et de s'affirmer, de montrer que nos histoires existent et qu'elles ont besoin d'être racontées. Ne serait-ce que pour mon enfant, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais mon enfant à 3 ans, il avait dit « Toi, t'es mon papa, toi, t'es ma maman », en désignant ma femme et moi. Mmh. Et même dernièrement, il a dit « De maman, c'est trop, je veux qu'une seule maman et je veux un papa ». Et quand il a dit ça, bah, c'était sa volonté d'être conforme au modèle hétéronormé qu'il voit à 99% dans son entourage. Cette phrase, elle m'a fait vraiment mal. Mais c'est celle qui m'a donné la force et l'envie de continuer à écrire des livres avec un héros qui a deux mamans, un héros qui ressemble à mon enfant, parce que j'ai vraiment envie de l'aider à se construire et à accepter son propre modèle familial et qu'il soit plus armé quand il va être peut-être victime d'homophobie ou de racisme. Mais je me dis, c'est maintenant ou jamais de cultiver ces graines de bienveillance et de tolérance auprès des jeunes. Et voilà, donc je me suis dit, mon fils, il n'a pas choisi d'avoir des traits asiatiques. Il a encore moins choisi d'avoir deux mamans. Mmh. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'écriture de livres jeunesse avec ce projet de lutte contre le racisme et l'homophobie.
Oui, non mais c'est clair, je pense que c'est hyper important que les enfants puissent s'identifier, et c'est en s'identifiant dans des livres, dans des films, enfin peu importe, qu'en fait ils comprennent que ben, leur famille, elle a une existence sociale en fait, dans la vie, elle est représentée. Donc, oui. Ben, ils n'ont pas besoin d'avoir un papa et une maman, puisqu'il y a d'autres familles qui existent, voilà, et que la leur, ils la trouvent dans cette représentation.
Tout à fait.
S'ils ne la trouvent pas, c'est pas la même chose.
Nous avons grandi, toi et moi, sans modèle. Mmh. Et donc, c'était pas évident pour nous de se dire, de s'autoriser à fonder notre propre famille ou vivre notre lesbianisme. Et donc, heureusement que nous avons des maisons d'édition comme On ne compte pas pour du beurre ou Talent haut qui mettent en avant ces familles arc-en-ciel. Et, et voilà, donc c'est vraiment une chance. Et moi, je te dis, c'est également important d'avoir ce genre de livres inclusifs dans des médiathèques, tout ça, pour développer l'empathie de tous les jeunes lecteurs pour des personnages qui ne leur ressemblent pas. Et en fait, j'ai rencontré une maîtresse d'école de CM2 qui m'a dit, moi, dans ma bibliothèque inclusive, eh bien, les enfants, au début, ils sont très étonnés d'avoir un livre avec un héros qui a deux mamans ou qui a une maman d'origine africaine avec un héros d'origine africaine, etc. Mais au bout du quatrième, cinquième livre, elle m'a dit, ce n'est plus un sujet.
Oui, c'est ça.
Au début, c'est la surprise, mais après, ils trouvent ça normal. Et donc, c'est vraiment important d'avoir davantage d'initiatives, de livres qui représentent nos familles, qui représentent des enfants différents. Ça fait du bien.
Ouais, voilà. Comme tu dis. Comme tu dis. Et franchement, je pense que cet enregistrement va faire du bien, beaucoup, autour de nous, comme ton livre peut faire du bien. Et je suppose qu'il commence à être un peu référencé partout. Enfin, je le vois passer, j'en entends parler. Mes filles le lisent régulièrement. C'est rigolo. Et du coup, sincèrement, merci. Merci d'avoir pris cette initiative et ce risque quelque part, parce que voilà, tu as vécu des choses par lesquelles on passe pas tous. Et du coup, c'était un vrai courage, parce que se visibiliser en tant que maman lesbienne d'origine chinoise, c'est quelque chose.
C'est quelque chose, mais ça peut aider à faire bouger les lignes.
Complètement.
Merci beaucoup, Constance.
Je t'en prie. Merci à toi. Je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à ma page Steady et au soutien financier que vous apportez chaque jour au podcast. Cela n'est pas une surprise pour moi, je sais que vous êtes très engagé vis-à-vis de ce podcast, vous me le prouvez tous les jours et chacun de vos messages me touche profondément et me donne l'énergie pour poursuivre cet engagement. En revanche, ce qui est plus une surprise, c'est que quasiment instantanément vous avez adhéré au soutien financier. C'était un cap difficile à franchir pour moi et pour vous, je n'en doute pas. Les premiers Steeders, si l'on peut les nommer ainsi, sont arrivés dès lundi. Je leur laisserai une place en fin d'épisode régulièrement. Aujourd'hui, je tiens tout particulièrement à remercier Martine, dont la fille Valentine m'a raconté son engagement en tant qu'alliée. Elles m'ont envoyé un de ces fameux messages qui a mis des paillettes dans mes yeux et de la douceur dans mon cœur. Et comme le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, je peux affirmer que Martine a réussi à transmettre ses valeurs à sa fille, qui est une des plus belles rencontres que j'ai fait cette année. Merci Martine et Valentine pour votre soutien sans faille au quotidien.
J'ai très envie de continuer à vous remercier individuellement, et je vais le faire plus souvent, c'est certain. J'ai très envie de continuer à vous remercier individuellement, et je vais le faire plus souvent, c'est certain. Votre soutien, quel qu'il soit, est précieux, et je vous en remercie infiniment. Vous pouvez donc soutenir le podcast sur ma page Teddy, donc vous trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast. Vous pouvez aussi lui donner plus de visibilité en le partageant sur les réseaux sociaux, en le notant sur les plateformes d'écoute, en faisant fonctionner le bouche à oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.